Bonjour à tous. Donc, je remercie notamment Pascal Mariotti de m'avoir invité à participer à ces journées et à intervenir sur une thématique qui m'est chère. Par contre, je ne vous remercie pas de me faire passer après ces deux orateurs. Alors, donc, mon propos aujourd'hui, en fait, c'est d'essayer de regarder un peu l'histoire de la psychiatrie française et de la sectorisation en parallèle des histoires de trois pays européens voisins que sont l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre, pour essayer de voir comment, les idées initiales étaient les mêmes, comment le processus s'est mis en place avec des calendriers différents et des modalités différentes. Donc, en fait, depuis les années 70, la plupart des pays européens sont passés d'une prise en charge de la maladie mentale qui visait tout d'abord à exclure les patients de leur milieu de vie pour les traiter dans des grandes institutions, les asiles du 19e siècle, qui étaient souvent situés à l'extérieur des villes ou aux portes des villes, à un modèle qui promouvait l'intégration sociale du patient dans son environnement à l'aide de services et de soins de proximité. Donc, c'est ce qu'on a appelé la désinstitutionnalisation des soins psychiatriques. Et donc, ce processus s'est opéré à des vitesses et des modalités distinctes entre les pays. Alors, même problème. Oui, je veux bien. Donc, dans les quatre pays étudiés, en fait, ce sont les mêmes facteurs qui ont, en général, présidé à la désinstitutionnalisation dans les années 70. Donc, c'était à la fois le développement de nouvelles techniques, notamment de techniques de traitement, notamment médicamenteux, l'évolution de la perception de la maladie mentale et l'affirmation que l'insertion des soins au plus proche du lieu de vie du patient permettait des traitements plus efficaces et moins stigmatisants. Et l'enjeu central, en fait, de ce processus a été de trouver un juste équilibre entre l'orientation vers l'hôpital et le recours aux services de proximité, tout en cherchant à déspécifier la psychiatrie pour en faire une discipline médicale comme les autres. Mais cette tendance générale, en fait, elle ne doit pas masquer des différences importantes entre les pays qui concernent tant à la fois l'étendue de la réduction du nombre de lits hospitaliers ou de la fermeture des hôpitaux dans certains pays, que l'importance et la nature des services qui ont été implantés et développés dans la communauté. Et donc, on va voir que ces processus se sont mis en place à des vitesses et des modalités différentes entre les pays. Et rappelons aussi qu'il y a des budgets différents qui sont consacrés à la santé mentale dans chacun de ces pays, avec un budget plus élevé en Angleterre, qui est environ 14% des dépenses de santé consacrées à la santé mentale, 11% en Allemagne et en France, et seulement 5% en Italie. Donc, dans la première moitié du XXe siècle, on peut dire que la situation des soins psychiatriques dans les quatre pays, elle est assez similaire. L'hospitalisation, c'est la seule modalité de prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques. Et c'est plutôt, à l'époque, un indicateur de qualité des soins, puisqu'avant, il n'y avait pas de traitement pharmacologique et que le traitement dans des établissements spécialisés apparaissait comme une innovation par rapport à la situation antérieure des personnes souffrant de troubles psychiques. Cependant, très vite, dans tous les pays, le surencombrement de ces institutions a fait oublier les objectifs thérapeutiques et ont peu à peu émergé des structures de prise en charge alternatives, de type accueil familial thérapeutique, colonie familiale, centre de post-cure ou d'hygiène mentale. Mais il faudra attendre quand même seulement les années 70 pour observer une véritable réforme des soins psychiatriques dans les pays européens. Et cette politique de désinstitutionnalisation, en fait, elle a suivi un calendrier différent dans les quatre pays. Elle est plus précoce en France et en Angleterre, avec des prémices qui sont sensibles dès l'entre-deux-guerres, alors qu'en Allemagne et en Italie, pour des raisons différentes, la réforme a été plus tardive. En Italie, en gros, jusqu'à la fin des années 70, la psychiatrie, elle est marquée par un retard général. On parle de psychiatrie carcérale. Et d'ailleurs, c'est ce qui aboutira à une réforme plus radicale des soins psychiatriques en Italie par rapport aux autres pays européens. Et en Allemagne, c'est plutôt les effets de la Seconde Guerre mondiale qui vont entraîner une sorte de frilosité à l'égard d'une réforme des soins de santé mentale. Et il faudra aussi attendre les années 70-80 pour voir un début de réforme. En France, au contraire de l'Allemagne, finalement, la Seconde Guerre mondiale, elle va jouer plutôt un rôle d'accélérateur dans la réforme des soins psychiatriques, puisque Gérard Massé l'a un petit peu évoqué ce matin, la surmortalité des malades hospitalisés en psychiatrie pendant la Seconde Guerre mondiale a été perçue comme un révélateur des dysfonctionnements de l'institution asilaire, mettant en avant à la fois les conditions de vie déplorables des patients, mais aussi l'exclusion sociale et la stigmatisation dont étaient victimes ces personnes. Et donc, ça a contribué à la prise de conscience de la nécessité d'un changement radical dans l'offre de soins en psychiatrie, qui a finalement abouti à, on va dire, qui a été instauré par la circulaire de 60, mettant en place la sectorisation psychiatrique. Donc ce processus de désinstitutionnalisation, il a pris des formes un peu différentes selon les pays. En Angleterre comme en Italie, ça s'est traduit par une fermeture des hôpitaux psychiatriques, à la différence de la France et l'Allemagne, qui connaissent, elles, une simple réduction et une restructuration de leurs services hospitaliers. Donc c'est en Italie, comme je l'ai dit avant, en fait, que le processus, bien que plus tardif, a été le plus radical, puisque la loi 180, votée en 178, en fait, votée en 1978, pardon, interdisait toute nouvelle admission dans un établissement psychiatrique, et donc ça a totalement modifié l'architecture des soins de santé mentale. Et ça a entraîné une complète refonte de la psychiatrie italienne, qui a engendré la fermeture de la quasi-totalité totalité de ces établissements psychiatriques. Mais parallèlement à cette fermeture des hôpitaux psychiatriques, l'Italie a développé de nombreuses structures d'hébergement non hospitalières avec environ 17 000 places recensées en 2006. Et on va voir que dans les autres pays, le développement de ce type de structure est très différent. En Angleterre, pareil, on a une quasi-fermeture de l'ensemble des établissements psychiatriques qui s'est opérée. D'après les dernières données dont on disposait, il y a 112 hôpitaux sur 126 qui avaient été fermés. Et le nombre total de lits d'hospitalisation en psychiatrie est passé de 140 000 à 25 000, sachant que dans les quatre pays qu'on étudie, enfin, on va dire la population est relativement similaire. Et comme en Italie, là, il y a un fort investissement dans des structures d'hébergement non hospitalières, des structures résidentielles qui ont été faites, qui ont été développées, et on compte plus de 40 000 places de structures résidentielles en Angleterre pour des personnes souffrant de troubles psychiques. En France, la politique de secteur, elle ne s'est pas prononcée contre l'hospitalisation à temps plein en psychiatrie, mais plutôt pour son dépassement. Donc l'idée, ce n'était pas de fermer les hôpitaux psychiatriques, mais plutôt de dire que l'hospitalisation à temps plein et les alternatives qu'on a pu développer faisaient partie d'un système de prise en charge unifié. Et donc, jugé nécessaire, les services hospitaliers n'ont pas été supprimés. Il s'agissait de déplacer le centre de gravité de la prise en charge de l'hôpital vers le secteur, vers la communauté. Donc en France, l'hospitalisation à temps plein connaît quand même une réduction drastique, puisque pareil, ça l'a déjà été dit, plus de trois quarts des patients sont suivis exclusivement en ambulatoire dans un établissement de santé en psychiatrie. Le nombre de lits a été divisé par deux, passant de 120 000 à 55 000 lits aujourd'hui. Et il y a eu un développement des structures de prise en charge en dehors de l'hôpital, mais beaucoup moins qu'en Angleterre et en Italie, et notamment pour tout ce qui est de ces structures résidentielles, puisque en France, si on cumule les 7 000 lits de structures alternatives sanitaires type accueil familial thérapeutique, appartement thérapeutique, post-cure, et 6 000 places dans le secteur médico-social réservé aux personnes en situation de handicap psychique, on est très loin des 40 000 places proposées en Angleterre dans des structures, on va dire, un petit peu équivalentes. En Allemagne comme en France, en fait, l'Allemagne et la France se ressemblent assez, puisque donc la désinstitutionnalisation, elle est davantage passée par une restructuration plutôt que par une suppression des hôpitaux psychiatriques. Donc il y a eu très peu de fermetures d'établissements, la plupart ont fortement décru en taille et se sont orientés soit vers des soins aigus très spécialisés et le développement de services psychiatriques à l'hôpital général. Et par contre, en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une très forte proportion des lits de psychiatrie qui a été transformée en fait en structure d'hébergement protégée pour des personnes avec des troubles psychiques, soit l'équivalent de notre secteur médico-social. Et du coup, en Allemagne, pareil, on a 63 000 places réservées aux personnes souffrant de handicap psychique dans ces anciens hôpitaux psychiatriques, finalement. Concernant la dimension territoriale, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc finalement, on observe une sorte de découpage en zonage géographique dans les quatre pays étudiés selon les périodes. En Allemagne, il y a un rapport psychiatrie-enquête de 1975 qui établit des zones géographiques de 150 000 à 350 000 habitants qui étaient responsables de l'offre de soins psychiatriques orientés vers une fourniture de services à proximité des lieux de vie. En Italie, en fait, la réforme de la psychiatrie va s'intégrer dans la réforme plus générale du système de santé italien et les soins sont fournis à travers des unités locales de santé non spécifiques à la psychiatrie qui sont responsables chacune d'une zone géographique de 50 000 à 200 000 habitants. Et d'après ce que j'ai vu, mais peut-être que le collègue anglais pourra être plus précis, ça a été également le cas en Angleterre dans les années 80 où il y aurait une sorte de sectorisation spécifique à la psychiatrie. Mais en France, en fait, cette politique de sectorisation, on va dire géographique, reste très spécifique, notamment du fait de l'ancrage territorial initial dès les années 60 de la prise en charge de la santé mentale au sein du secteur psychiatrique. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu en désaccord avec l'introduction de M. Allos ce matin, parce que pour moi, justement, le secteur psychiatrique, initialement, il avait une très riche conception du territoire, et c'est, je veux dire, c'est ça. C'est ce qu'on en retient aujourd'hui qui est une cartographie. Mais initialement, le secteur psychiatrique était pensé avec une ambition clinique et thérapeutique. C'était un territoire sur lequel pouvait s'appuyer une équipe de soins pour prendre en charge globalement la personne souffrant de troubles psychiques. Une ambition clinique et thérapeutique parce que, comme l'écrivait alors un psychiatre, c'est en agissant dans le milieu et parfois sur le milieu que se mène le combat contre les maladies mentales. Et on voit bien que le secteur, à l'époque, enfin pour les psychiatres, il était conçu comme le milieu thérapeutique sur lequel il fallait agir. Et on avait l'idée d'une dilution de l'asile comme lieu de soins dans le secteur comme un milieu thérapeutique. Et c'est cette conception clinique qui a abouti à la circulaire de 60, qui met en place la politique de secteur, qui impose à chaque département, donc là, de découper administrativement son territoire en zone géodémographique d'environ 70 000 habitants. Mais l'idée initiale, c'était bien à l'époque de permettre à l'équipe soignante, par la bonne connaissance qu'elle a de son territoire, d'assurer le traitement au long cours du malade et d'améliorer son insertion dans la communauté. Donc il y a l'idée de continuité des soins, de multiplicité des structures qui vont contribuer à étayer le cadre de vie du patient, à l'accompagner dans sa vie quotidienne, en proposant des prises en charge adaptées aux différentes phases de la maladie. Il y avait aussi une ambition égalitaire et intégrative dans cette dimension, dans cet ancrage territorial du secteur de psychiatrie, c'est qu'il s'agissait d'éviter la ségrégation et la séparation des malades et d'offrir à toutes les couches sociales, à toutes les pathologies, un accès aux soins. Donc, la dimension géographique du secteur de psychiatrie, elle a été supprimée en 2003 par l'ordonnance de simplification administrative afin d'intégrer la psychiatrie dans la planification générale des soins. Et du coup, depuis 2003, et ça a été renforcé avec la loi HPST, les acteurs du secteur et les acteurs publics et privés, les autres opérateurs, on va dire, de la prise en charge de la maladie mentale, qu'ils soient sectorisés ou pas, qu'ils soient sanitaires ou sociaux, sont invités à participer ensemble à la prise en charge de la santé mentale à l'échelle des territoires de santé, donc mis en place par la loi HPST. Et cependant, on voit bien que le secteur de psychiatrie, malgré la suppression, on va dire, administrative de sa dimension géographique, est réaffirmé dans des textes, dans le plan psychiatrie santé mentale, dans le rapport de la Cour des comptes, comme socle de l'espace de proximité de la prise en charge en psychiatrie. Oui, au-delà du découpage, dans les petites différences qui existent entre les pays dans la façon de mettre en place la désinstitutionnalisation en psychiatrie, il y a des différences un petit peu dans le type de structure développée. Donc là, je vais peut-être passer plus vite. Donc, en Angleterre, notamment... Alors, l'Angleterre, pareil, je laisserai le collègue anglais intervenir après, parce que l'Angleterre, c'est vrai qu'elle a tendance à changer souvent. Et si une idée n'est pas bonne, à en changer, et pas accumuler, comme nous, des textes et des choses. Donc, je pense qu'il y a des choses qui n'existent plus, alors que ces données dataient de 2009-2010. Mais en gros, je dirais que l'Angleterre, elle se caractérise par un très fort développement d'équipes spécialisées. Des équipes spécialisées dans la gestion de crise, des équipes spécialisées dans les interventions précoces auprès des patients psychotiques, des équipes spécialisées dans la réhabilitation, dans la prise en charge des sans-abri, et avec aussi une prise en charge assez interventionniste avec de fortes interventions à domicile. En Allemagne, une des spécificités qu'on peut noter, c'est notamment le développement de services socio-psychiatriques qui sont destinés aux personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, ce sont des services qui sont complémentaires aux services hospitaliers et ambulatoires et qui incluent des soins de réhabilitation et de long terme. Après, dans tous les pays, on retrouve l'équivalent du CMP, que ça s'appelle Centre de santé mentale communautaire. Enfin, on a toujours cette structure, on va dire, généraliste de base qui gère l'ambulatoire. Mais voilà, à côté, il y a un développement plus ou moins important de dispositifs spécialisés. En Italie, en fait, il y a des départements de santé mentale, 200 départements de santé mentale qui doivent délivrer des soins à la fois ambulatoires, hospitaliers et résidentiels, ce qu'on n'a pas en France. Et donc, bon, sur la France, vous connaissez, donc je dirais que par rapport aux autres pays, il y a peut-être plus de freins à développer des services spécialisés, même si on voit de plus en plus de développement de dispositifs intersectoriels, d'équipes mobiles spécialisées, d'équipes spécialisées dans certaines pathologies ou certaines prises en charge de certaines populations. Mais il y a quand même toujours cette idée du secteur initial où on ne veut pas ségréguer les patients, j'ai envie de dire. Il est important de proposer une prise en charge globale et générale. Donc, pour conclure, en fait, cet aperçu assez rapide de l'organisation des soins et du développement des dispositifs de soins en psychiatrie dans d'autres pays européens permet d'avoir un nouvel éclairage sur la situation française et mon bilan, en fait, si on regarde la France par rapport à ses voisins européens. c'est que la France présente un certain retard en matière d'intégration de la psychiatrie à l'hôpital général, mais aussi et surtout en matière de développement des structures d'hébergement et de services d'accompagnement de la personne souffrant de troubles psychiques dans sa vie quotidienne. Et selon moi, en fait, la prise en charge de la maladie mentale en France, elle a été longtemps gérée essentiellement par le secteur de psychiatrie, avec une vision souvent totalisante de ses missions qui allait de la prévention à la réinsertion. Et d'ailleurs, le dernier plan psychiatrie et santé mentale appelle le secteur à passer d'une approche totale à une approche globale de la prise en charge de la santé mentale sur le territoire de santé. Donc l'articulation en fait avec le secteur social et l'approche globale de la prise en charge avec les autres acteurs du champ sanitaire et social, que ce soit la médecine de ville, les établissements de santé publics et privés, les services d'accompagnement social et médico-social, il reste insuffisamment développé par rapport à ses voisins européens. De même, l'implication des usagers et des proches dans le projet thérapeutique, à travers notamment les concepts de rétablissement, d'empowerment ou de responsabilisation, comme ça se fait beaucoup dans l'exemple anglais, ça demeure assez embryonnaire, à mon avis, en France. Et je pense que la prise en charge française de la santé mentale, en fait, elle est pensée fortement en termes sanitaires et elle ne prend pas assez en compte les différentes dimensions de la vie quotidienne, l'hébergement, l'accès et le maintien dans l'emploi, l'accès à la formation, aux loisirs notamment, alors que toutes ces dimensions participent fortement à la qualité de vie et au maintien ou à l'intégration sociale des personnes confrontées à un trouble psychique, qui est quand même un des objectifs de la sectorisation psychiatrique. Donc pour conclure, le secteur de psychiatrie, pour moi, il avait une conception très riche du territoire, où la dimension humaine et sociale était prédominante et participait à la prise en charge de la personne. Et le territoire apparaissait comme une ressource pour l'équipe de soins. Et je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans le champ de la santé, dans cette façon de penser le territoire. C'est un véritable, dans le champ de la psychiatrie, c'est un véritable support, acteur, contenu du soin, et pas un simple contenant, un simple espace dans lequel on plaque une offre de soins, on va dire. Mais c'est un peu sa traduction administrative, justement, le territoire politique, le territoire d'action, qui lui a fait perdre une partie de son sens. Et malgré ça, on voit qu'aujourd'hui, alors que sa dimension géographique est supprimée dans certains textes, on voit que malgré ça, le secteur, il maintient. Si aujourd'hui quelqu'un cherche à prendre contact avec un CMP, on va tout de suite lui demander où il habite, alors qu'officiellement, le territoire géographique n'a plus de sens, on va dire. Et on voit que malgré ça, donc, les équipes de secteur s'appuient fortement sur ce territoire pour prendre en charge le patient, malgré tous les défauts et les incohérences du découpage territorial des secteurs psychiatriques. Et on voit bien comment les décennies de pratiques soignantes, de relations, ont à leur tour façonné ces territoires. Et ce qui explique aujourd'hui les difficultés que peuvent avoir les équipes de secteur à transformer leurs pratiques et à s'inscrire dans le paysage de la planification actuelle, dans le modèle général de planification des soins à la fois somatiques et psychiatriques. Donc là, ma conclusion, elle reprend certaines choses qui ont été dites ce matin. Donc je pense que le secteur psychiatrique, il avait une certaine avance sur la façon de penser le territoire en santé. Mais souvent, il est peut-être resté trop fermé sur lui-même, sur ses acquis, et il n'a pas toujours accompagné l'évolution de son territoire, donc ce qu'on a vu sur la présentation de la DATAR, ni l'évolution des nouveaux acteurs qui s'implantaient sur son territoire. Mais voilà, le secteur a de nombreux atouts à faire valoir et une riche expérience à partager. Et cette façon de penser le territoire à l'échelle d'une maladie chronique entre les champs du sanitaire et du social, elle est en mesure aujourd'hui d'inspirer des politiques de santé d'une population vieillissante. Et j'ai envie de dire, on parle beaucoup aujourd'hui de projets concernant les personnes âgées, le parcours de soins des pathologies, des malades chroniques. Et c'est vrai que la psychiatrie, j'ai envie de dire, au sein du milieu psy, l'avancée qu'avait le secteur et la façon de penser la pathologie chronique en santé de la psychiatrie, elle est connue et valorisée en son sein, mais elle a encore du mal à se faire entendre auprès des autres champs médicaux. Je m'arrête là. Merci.